France Musique.
Merci Sébastien Linares et on vous retrouve la semaine prochaine à la même heure.
Mr. Louis Armstrong.
Now, good evening, ladies and gentlemen. Listen at this.
Un été avec Armstrong. Épisode 7, West End Blues.
L'année 1927 ne s'achève pas très bien pour les compères Armstrong, Hines et Singleton. Le Sunset Café où ils jouaient a été fermé par la police, une histoire d'alcool visiblement, et le club qu'ils venaient de créer avec leurs économies coule en seulement quelques semaines. Et voilà les trois musiciens sur la paille et même au chômage. Les jazzmen, du moins à l'époque, sont de bien piètres gestionnaires de leur propre carrière, il faut bien le dire. Alors, adieu les rêves d'indépendance, retour dans l'orchestre du violoniste Carol Dickerson qu'ils avaient quitté peu de temps auparavant, avec lequel ils enregistrent ce Symphonic Raps en juillet 1928. Pendant son séjour dans cet orchestre, Armstrong reforme un Hot Five. Cette fois, c'est un Hot Five à 6, en comptant le patron, et il n'y a plus aucun membre du Hot Five d'origine. Cette nouvelle formation comprend les deux amis, Earl Hines au piano et Singleton à la batterie. Le trombone, la clarinette et le banjo sont tenus respectivement par Fred Robinson, Jimmy Strong et Muncy Carr, des membres de l'orchestre de Dickerson. C'est avec cette équipe qu'un nouveau moment de grâce se produit en juin 1928, avec cette introduction peut-être la plus célèbre du jazz. Thank you. Alors certes, ce morceau, West End Blues, puisqu'il faut le nommer, tout le monde le connaît, il est emblématique de la carrière d'Armstrong et du jazz en général, mais c'est Joe Oliver qui l'a écrit. Oui, Joe Oliver, King Oliver si vous préférez, le même qui a lancé Armstrong quelques années auparavant. Non seulement il l'a écrit, mais il a été le premier à l'enregistrer, ce West End Blues, 17 jours avant son ancien poulain qui est devenu son concurrent. Donc sans plus attendre, voici la première version de West End Blues par King Oliver, sans Armstrong, et ça n'a pas grand chose à voir. Thank you. cette histoire ne s'arrête pas là. King Oliver a certainement écouté la superbe version de son ancien élève avec cette fameuse intro à la trompette. Et l'année suivante, en 1929, le vieux roi du jazz, presque déchu, enregistre à nouveau le West End Blues et cette fois... Bien entendu, Oliver a piqué l'intro d'Armstrong. Quant au solo de piano qui vient après, le musicien de cette session avec Oliver a dû bien écouter la version du Hot 5 car son solo est très proche de celui joué par Earl Hines. Mais la version de Louis reste supérieure à celle d'Oliver et alourdie par la présence d'un tuba en partie. En même temps, quand vous avez un géant comme Armstrong, en plus, qui enregistre à tour de bras, difficile de ne pas s'en inspirer, même inconsciemment, explique Dan Morgenstern.
Well, he develops as any artist would. He matures, and also, although his
comme tous les artistes, il a évolué, il a gagné en maturité. Et bien qu'il maîtrise parfaitement bien la trompette dès ses débuts, auprès de Oliver ou d'autres musiciens, il s'améliore. Et quand on arrive vers West End Blues, il maîtrise non seulement la trompette, mais il devient le créateur du langage du jazz. Pratiquement toutes les phrases musicales ont été créées par Louis Armstrong. Si on écoute attentivement le vocabulaire du jazz, eh bien, il y en a une très grande partie dont la paternité revient à Louis Armstrong. On ne peut rien jouer à la trompette que Louis Armstrong n'a jamais joué. C'est ce qu'a dit Miles Davis.
Mais avant Miles Davis, d'autres musiciens se sont inspirés d'Armstrong, alors sans aller jusqu'à la copie, aussi parce que leur maison de disques le leur demande. Certaines se mordent les doigts littéralement d'avoir raté le phénomène de la trompette. Par exemple, l'excellent musicien J-Bo Smith enregistre pour la marque Brunswick, et lui aussi, il a forcément entendu Armstrong, notamment le West End Blues, une fois de plus, qui s'est beaucoup vendu, lorsqu'en 1929, il enregistre ce titre, Take Me to the River, avec une introduction impressionnante à la trompette, même si ce n'est pas de la copie, et aussi une partie de scat. J-Bo Smith a enregistré tout au long de 1929 une série de disques avec un groupe à géométrie variable, les Rhythm Aces, les As du rythme, une grande réussite de l'époque. Autre bon musicien, Henry Red Allen, néo-orléanais, comme Armstrong, mais qui n'a pas vraiment un son armstrongien. Hugues Panassier n'aimait pas Red Allen, mais bon, Panassier n'aimait pas grand monde. Red Allen tient très bien la trompette dans l'orchestre de Louis Russell en cette année 1929, et bientôt Armstrong viendra grossir les rangs de cette formation et écrasera les autres musiciens avec sa virtuosité. Mais dans ce titre, Feeling the Spirit, Armstrong n'est pas encore dans l'orchestre, Red Allen s'en tire très bien, et le scat, chanté d'une voix rauque par le tromboniste, rappelle une fois de plus l'influence armstrongienne. We'll be right back. Et voilà le son de l'orchestre de Louis Russell quelques mois avant qu'Armstrong ne l'intègre et en devienne la vedette. Il ne sonne pas comme l'orchestre précédent, celui de Dickerson. Il compte cependant d'excellents musiciens comme le trombone J.T. Higginbotham, le contrebassiste Pops Foster ou encore le batteur Paul Barbarin, ces deux-là étant de purs produits néo-orléanais. Désormais, Armstrong a montré qu'il était possible de chanter d'une voix rauque, mais avec talent. On peut aussi chanter avec une voix bêlante et sans talent, comme la vocaliste Lily Delk Christian, une espèce de Florence Foster Jenkins du jazz. C'est certainement la pire chanteuse qu'Armstrong ait accompagnée. Mais il n'est pas encore maître de sa carrière, il ne fait pas ce qu'il veut. Paradoxalement, le directeur artistique des disques OK, Tommy Rockwell, a réuni de grands noms du jazz pour accompagner Lily Delk Christian, Jimmy Noon à la clarinette, Earl Hines au piano, Johnny Saint-Cyr au banjo et bien sûr Armstrong. Vous allez entendre, ça aide à faire passer la pilule.
It's annoying me. Honestly, it's so aggravating. Won't you tell me just what to do? When I ask for a kiss or two, you say no, not now, dear, somehow. Dear, you're always too busy for my loving, too busy for my petting. That is all that I've been getting from you. What's more, and I'm not lying, I've noticed you've been trying hard to shake me and it's making me blue. I can't understand your actions, but I'll get my satisfaction. Don't you worry, just you wait and see, dear. Wait till you want me, honey, then it won't be so funny when I say that I'm too busy for you. What's more, and I'm not lying, I've noticed you've been trying hard to shake me and it's making me blue. I can understand your actions, but I'll get my satisfaction. Don't you worry, just you wait and see. Wait till you want me, honey, then it won't be so funny when I say that I'm too busy for you.
Encore un disque sauvé du naufrage par Armstrong. Depuis 1927, ces disques sont distribués en Europe sur les marques Parlophone et Odéon. Mais ces disques de jazz odd sont édités en petit nombre et les orchestres les plus représentés sont les orchestres blancs. En fait, comme l'écrit Laurent Cuny dans Une histoire du jazz en France, il n'y a que 3 orchestres noirs américains édités en Europe en cette fin des années 20. Carol Dickerson, Duke Ellington et Armstrong. Les amateurs peuvent acheter West End Blues, Fireworks, Black and Blue, Muggles et un seul titre des Hot Seven, le Wild Man Blues. La sélection des titres édités en Europe se fait de manière assez étrange. Pourtant, plusieurs jazzmen roulent déjà leur boss sur le vieux continent, hein, comme Tommy Lanier et surtout le grand Sidney.
La première personne qui est devenue vraiment populaire dans la musique de jazz à Nouvelle-Orléans, c'était Sidney Bechet. Et quelques années avant Armstrong, Sidney Bechet avait joué un peu partout aux États-Unis, mais aussi en Europe et même en Russie. Et tout comme Armstrong, Sidney Bechet était parmi les premiers musiciens à avoir enregistré du jazz de Nouvelle-Orléans. Mais on peut dire que Armstrong, c'était la première grande vedette jazz aux États-Unis.
En France, le nom d'Armstrong n'est encore connu que de quelques mordus de jazz, souvent eux-mêmes musiciens. Ils s'appellent Alex Renard, Faustin Jean-Jean, Philippe Brun. Ils jouent dans les premiers vrais orchestres de jazz hot français formés en cette fin des années 20. Il y a Grégor et Ray Ventura. Ray Ventura ici dans un de ses premiers disques avec Philippe Brun à la trompette qui écoutait sûrement déjà Louis Armstrong à l'époque. Le trompettiste Philippe Brun ira chercher du travail outre-Manche dans l'orchestre de Jack Hilton. Jack Hilton, un Britannique qui jouera, vous l'entendrez dans les émissions prochaines, un petit rôle dans la carrière de Louis Armstrong. Retour aux États-Unis, le nouveau Hot Five écrit à lui seul des pages entières de l'histoire du jazz. Armstrong joue toujours dans ce dancing baptisé le Savoy à Chicago. Mais si l'orchestre sonne aussi bien, c'est aussi grâce aux innovations du pianiste Earl Hines. Dans Basin Street Blues, il se met même au Celesta. Mais c'est quasiment le chant du cygne du Hot Five qui va bientôt disparaître, tout comme le jazz de Chicago. Mais quel disque, ce Basin Street Blues? C'est le préféré de Dan Morgenstern, et ce n'est pas Irakli de Davry Chevy qui dira le contraire.
Ce qui est magnifique, c'est Earl Hines, il joue du Celesta, il fait l'introduction, il est tout seul, on entend le tympan. Totalement. Il y a tellement de sens du tempo avec ce petit truc-là. Et il fait des phrases, on se demande, mais attends, Erlans, il est capable de s'intégrer, faire la mélodie qu'il faut au bon endroit. Et bon, c'est des chefs-d'œuvre tout ça, c'est des chefs-d'œuvre. Hein. C'est les premiers, à mon avis, c'est les plus grands morceaux de Louis Armstrong.
Thank you.
En cette fin des années 20, le jazz de Chicago a vécu. L'endroit est beaucoup moins propice aux folies, la répression est plus dure face au commerce d'alcool, les musiciens vident les lieux et ceux qui restent doivent s'adapter. Le clarinettiste Johnny Dodds, ancien du premier Hot Five, ancien de King Oliver, se fait chauffeur de taxi. Benny Moten arrête les disques en 32, J. Bo Smith connaît un passage à vide. Earl Hines, lui, tient à rester à Chicago coûte que coûte, où il dirige l'orchestre du Grand Terrace. Mais ses musiciens n'ont pas le niveau de ceux qui sont déjà partis. Chicago jette ses derniers feux.
Thank you.
Chicago Rhythm par Earl Hines, sans Armstrong, puisque Armstrong, pour la deuxième fois de sa vie, en 1929, se rend à New York. Mais maintenant, c'est lui la vedette, grâce au disque où son nom apparaît, et grâce à la radio naissante aussi. Tommy Rockwell, des disques OK, son impresario officieux, lui a trouvé un engagement au Savoy de New York avec l'orchestre de Louis Russell. À son arrivée, Louis fait la fête avec plusieurs amis musiciens et le lendemain de la fête, cette petite bande grave deux titres dont un seul sera édité. Cette pièce pour le moins originale s'appelle Knocking Jug. C'est un ovni dans la carrière d'Armstrong et l'une des premières fois qu'il réunit des musiciens noirs et des musiciens blancs, la crème de la crème de chaque. Il y a le guitariste Eddie Lang, Kaiser Marshall à la batterie, Joe Sullivan au piano et son grand pote, le tromboniste Jack Teagarden. À la fin de son contrat à New York, Armstrong retourne à Chicago, mais les emplois sont rares. C'est une période de flottement pour lui comme pour l'orchestre de Dickerson. Rockwell fait revenir Armstrong à New York pour l'intégrer dans une comédie musicale où il lui a trouvé un engagement. Mais lui s'amène avec tout l'orchestre. Ça fait une dizaine de personnes à caser au lieu de lui tout seul. Et en cette période de crise, rien n'est moins facile. En plus, la comédie musicale est un four. Finalement, grâce à Rockwell, tout ce petit monde est engagé pour une autre comédie musicale signée Fats Waller, celle-ci qui va très bien marcher. Quelques disques sont enregistrés à New York, puisqu'il faut bien faire travailler tout cet orchestre que l'on n'attendait pas là. Ce sont les ultimes collaborations entre Armstrong et la formation de Dickerson avant que ces derniers ne se dispersent. Ce titre, After You've Gone, constitue le point final de leur travail commun. Et c'est aussi un peu la fin d'une époque. Rockwell insiste pour qu'Armstrong intègre un orchestre de New York qu'il a déjà sous contrat et pour lequel il trouve des engagements et des séances d'enregistrement. Cet orchestre, c'est la formation de Louis Russell, cité un peu plus tôt dans l'émission. Mais Armstrong, sa fougue et sa trompette ne se fondent pas dans cet orchestre qui leur est dévolu. Il le surplombe, il le domine. Cependant, l'association fonctionne plutôt bien tant que les musiciens servent le roi. Satchmo vit au rythme de ses engagements. En 1930, direction Los Angeles. Pour la première fois, il est engagé, comme vedette, puisque c'est désormais son statut, dans un établissement nommé le Sebastian's New Cotton Club, en référence au Cotton Club de New York. L'orchestre en résidence là-bas ne convient pas au roi de la trompette, qui a ses petits caprices et tout le monde est viré. Tout le monde, sauf le jeune percussionniste, qui trouve grâce aux oreilles armstrongiennes. Il est audacieux, ce jeune, et il joue très bien de cet instrument bizarre, le vibraphone. Armstrong l'autorise à enregistrer avec lui ce qui est le premier solo de vibraphone de l'histoire du jazz. Et le musicien qu'il joue, c'est Lionel Hampton. ¶¶
working skies at sunrise, every sunset too, babe, seems to be bringing me memories of you. Now, honey, here and there, everywhere, scenes that we once knew, oh, and they're all just recall memories of you, baby. How I wish I could forget those happy yesteryears that have left a rosary of tears. Rosary of tears, baby, oh Lord. Your face beams in my dreams. In spite of all I do, oh baby, everything seems to ring. Memories of you.
Le jeune Lionel Hampton, 22 ans à l'époque, jouait encore quelques mois auparavant dans l'orchestre de Paul Howard qui était à demeure au New Cotton Club. Non content d'avoir intégré le vibraphone dans l'instrumentarium du jazz, il en deviendra le premier virtuose en 1936 dans l'orchestre de Benny Goodman. Ça, c'est le Hampton bien connu. Mais ses premiers disques en tant que batteur, il les a fait dès 1929 avec ce fameux Paul Howard, peu de temps avant sa rencontre en studio avec Armstrong. C'est lui aussi, Hampton, qui assure le scat sur ce disque.
Thank you.
Pendant son séjour à Los Angeles, Armstrong grave un dernier disque avec sa femme, Lil, et l'ambiance devait être plutôt électrique, car les deux ne vivent plus ensemble, ils sont quasiment séparés, mais pas encore divorcés. Le couple accompagne le chanteur Jimmy Rogers, préfigurateur de la musique country. Mais Monsieur Armstrong est très accaparé par son orchestre, où, comme chez Russell à New York, les arrangements sont écrits pour lui permettre ces grandes envolées que le public lui réclame, comme sur ce titre extraordinaire, Shine, avec toujours ce sacré vibraphone derrière.
My hair is curly just because my teeth are pearly, just because I always wear a smile, like to dress up in the latest style, 'cause I'm glad I'm living. I take troubles all with a smile, just because my color shady, different maybe, that's why they call me Dumpy Bitty Thunder, Bubba Bitty Bunder. My hair is good, oh, my teeth are bad, just because, oh baby, oh baby, in Denver, no, no. Oh, baby, I did it. Baby, oh, oh, baby, that's why they call me shy.
Armstrong en Californie, Hollywood n'est pas loin et ce serait dommage pour lui comme pour le cinéma de laisser passer l'occasion, surtout que maintenant le cinéma parle et chante. Mais un soir, alors qu'Armstrong fume juste un petit joint avec un ami à l'extérieur d'un club, un policier lui met la main sur l'épaule et lui demande de le suivre. Ça, c'est le début des ennuis à Los Angeles. Nous vous en dirons plus la prochaine fois. Pour terminer l'épisode, il y avait à la réalisation Sophie Pichon, que vous connaissez bien maintenant, à la technique Fabien Capel, pour la page web Emmanuel Lacaze et Hortense Leblouche. Il est maintenant l'heure de retrouver Alex Dutille pour Jazz Ladies au sommet.
À réécouter sur francemusique.fr.